Les étudiantes et étudiants relais égalité s'invitent dans l'apérophonie.
La libération de toutes les nationalités opprimées et de la libération de la classe ouvrière.
I will not be lectured about sexism and misogyny by this
man. Que l'aborto sea legal, seguro y gratuito.
Des émissions qui parlent de lutte contre les violences et la discrimination à l'université et en dehors sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlie.
Je suis Lilio.
Et nous sommes étudiants Relais Santé. Vous êtes bien sur Radio Campus, le 90.8. Cette émission fait suite à la semaine de la santé mentale qui a eu lieu du 6 au 19 octobre. Et aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'impact du lien social sur la santé mentale. Nous sommes accompagnés de trois invités. Alice, bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'association Alpaline, qui est une ligne d'écoute pour étudiantes. Anthony Bonnemaison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur et chercheur de philosophie ici à l'UGA et vous travaillez sur la philosophie grecque des présocratiques à Aristote. Rania, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante en master de psychologie spécialisée en psychologie du travail et ergonomie et également, depuis cette année, étudiante relais santé.
Avant de commencer l'émission, nous allons définir les termes santé mentale et lien social tels qu'ils sont définis par l'OMS. Donc tout d'abord, la santé mentale est définie comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Et le lien social est défini comme le lien se rapportant à la manière dont les personnes entrent en relation et interagissent les unes avec les autres. On va pouvoir observer des chiffres transmis par Santé publique France en 2021-2022 qui indiquent que 55% des jeunes de 18-24 ans ont déjà été affectés par un problème de santé mentale. Plus de 20% d'entre eux sont concernés par la dépression et plus de 9% d'entre eux par des symptômes anxio-dépressifs. Également, 18% indiquent avoir eu des pensées suicidaires pendant l'année 2021-2022. Donc ces chiffres nous montrent qu'être touché par des troubles de santé mentale lorsqu'on est étudiant, c'est pas une situation rare ou isolée, mais surtout, ils nous interpellent. Pour quelles raisons les étudiants et étudiantes constituent-ils une population si vulnérable aux troubles de santé mentale ? Cet état semble en contradiction avec l'image de liberté, d'insouciance, de découverte de soi et des autres que représentent les années universitaires où on quitte le cocon familial. Est-ce que ce ne serait pas précisément les chamboulements des repères et des liens sociaux qui affecteraient la santé mentale des étudiants en les rendant plus vulnérables ? Avec nos invités, on va se questionner pendant une heure sur l'impact de l'isolement sur la santé mentale, l'importance de la relation et de la parole pour en sortir, et le rôle de l'entraide en communauté, du collectif, du soin les uns aux autres. Pour commencer, on voulait se poser une question toute simple mais essentielle. Est-ce qu'on est toujours seul au monde ? La solitude, c'est une expérience que beaucoup d'étudiants et étudiantes vivent aujourd'hui. Mais ce n'est pas un phénomène récent. Dès l'Antiquité, le philosophe Aristote réfléchissait déjà à ce qu'on appelle aujourd'hui le lien social. Il affirmait que l'être humain est un animal politique, en grec « politikon zoon ». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Anthony Bonnemaison, pourriez-vous nous expliquer ce que cette expression signifie chez Aristote ? Est-ce qu'on peut dire, selon lui, que l'être humain a fondamentalement besoin des autres et que vivre isolé va à l'encontre de notre nature ?
Oui, tout à fait. Alors, lorsque Aristote définit l'être humain comme un animal politique, d'abord, c'est pour dire que c'est un animal, mais d'un genre particulier, puisqu'il est naturellement fait pour vivre en cité, en collectivité. Alors, la cité, c'est l'organisation politique à l'époque des Grecs, chaque cité possédant ses lois, ses institutions, son fonctionnement. Et donc, quand Aristote dit ça dans les politiques au début, c'est pour dire à la fois que les êtres humains se sont naturellement développés dans des communautés de plus en plus larges et de plus en plus riches et complexes. D'abord la famille, pour répondre aux besoins fondamentaux, puis des villages et enfin des cités. Et le point important avec la cité, c'est qu'elle permet non seulement de vivre, d'assurer la subsistance matérielle, économique, etc., mais elle permet aussi le bien vivre, ce qu'Aristote appelle le bien vivre, c'est-à-dire une existence heureuse, pleine, accomplie. Donc la thèse forte d'Aristote, c'est qu'il n'y a qu'en société, en cité, dans le fait de participer en fait à la vie politique de notre cité, plus précisément, qu'on peut vivre une existence pleine et accomplie. Donc l'être humain, c'est un animal sociable en ce sens, et qui effectivement ne peut pas vivre, ou en tout cas pas vivre heureux, pas vivre une existence pleinement humaine, en dehors en fait de ce cadre politique et social qu'est la cité.
Et c'est intéressant parce que du coup, les étudiants qui ont souvent grandi dans une ville, donc une cité particulière et dans un cadre de communauté particulière, ont tendance à déménager pour leurs études. En effet, pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils s'installent loin de leur famille, parfois dans une ville inconnue et qu'ils vivent seuls. Donc cette rupture des repères, elle peut rendre la solitude particulièrement difficile à vivre. Donc Alice, à travers ce que vous entendez à Alpaline, est-ce que vous observez cet isolement chez les étudiants et étudiantes ? Qu'est-ce qui rend leur lien social particulier, peut-être fragile ?
Ben, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve, parce que notamment à l'UGA, on a beaucoup d'étudiants qui viennent un peu partout dans le monde et qui, des fois, pour la première fois, vivent loin de leurs parents et loin de leurs amis, des habitudes. Donc on va retrouver ça dans les appels régulièrement. Ce sentiment d'être seul, d'être isolé et d'être face à un monde qu'on ne connaît pas, puisque malgré tout, les études, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et on confronte ça régulièrement. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile, mais qu'on essaye quand même de soutenir ces étudiants-là dans le besoin et de leur apporter des conseils et des aides face à cela.
Du coup, on pourrait dire que l'isolement a bien des conséquences sur leur santé mentale ?
Oui, tout à fait. C'est quelque chose que toute personne, malgré tout, malgré un long moment d'isolement, comme ce qui a été dit avant, on a tous besoin d'un peu de lien social. Et quand ce lien n'est pas possible ou pas encore développé, c'est quelque chose qui va nous toucher et qui va apporter un impact sur notre santé mentale et sur notre bien-être global, que ce soit physique ou psychologique. Et donc, ça peut avoir un fort impact sur notre santé mentale en général, en globalité.
Et Rania, de votre côté, dans les échanges que vous avez pu avoir en tant qu'étudiante en psychologie et étudiante relais santé, quels sont les effets concrets de la solitude que vous avez pu constater chez les étudiants ? Est-ce qu'on peut parler d'un cercle vicieux ? Plus on se sent seul, plus on va mal et moins on va vers les autres ?
Ouais, en fait, il y a beaucoup de solitude, comme on l'a mentionné juste avant, chez les étudiants. Et c'est rarement juste le manque d'amis qu'on peut entendre généralement, c'est plus profond. Donc comme on l'a dit, il y a la nouvelle ville, la perte des repères, l'impression de plus vraiment exister en fait dans le regard des autres, parce qu'on a perdu nos autres en fait. Et donc ce sentiment-là, il pèse. Et du coup, le problème, c'est comme vous l'avez dit, il y a un cercle vicieux en fait qui s'installe, c'est... plus on se sent seul, plus on doute de soi, plus on se dit qu'on n'est pas intéressant et en fait on n'ose plus aller vers les gens et du coup on se replie encore plus en fait. Et donc les effets principaux qu'on peut noter, c'est déjà la perte de ce sentiment d'appartenance. En fait, en tant qu'humain, on a besoin d'appartenir à un ou plusieurs groupes et du coup sans ce lien, en fait, notre estime de nous-mêmes, elle s'effrite et du coup notre santé mentale en prend un coup. Il y a également un autre effet qui est la prophétie autoréalisatrice. Ça, c'est un truc qu'on voit pas mal. C'est en fait la peur d'être rejeté. Elle conduit à des comportements qui augmentent le risque du rejet. C'est en fait, on pense tellement qu'une chose va se passer que du coup, en fait, on fait tout pour que ça se passe inconsciemment. Et du coup, ouais, tout ça contribue au cercle vicieux de la solitude.
Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter ensemble un extrait de conférence prononcé par Lorraine Bastide au sujet de son nouveau livre « Enfin seul ».
En anglais, effectivement, on a un mot spécifique pour désigner qui est « loneliness ». Or, on sait que ce sentiment de solitude, dans nos époques contemporaines, c'est un véritable fléau. Il y a des ministères qui sont créés dans certains pays, comme en Angleterre ou au Japon, pour lutter contre le sentiment de solitude. On sait aussi que c'est un drame, qu'il y a de plus en plus d'adultes isolés, notamment des personnes âgées qui n'ont quasiment plus d'interaction sociale. Et évidemment, ce n'est pas cet isolement-là, ni cette détresse-là, que je désigne dans le livre. D'ailleurs, il y a un sondage que je cite en introduction qui dit tout. Parmi les personnes qui déclarent ressentir souvent un sentiment de solitude, 75% ne vivent pas seules.
Dans cet extrait, la philosophe, podcasteuse et féministe Lorraine Bastide met en avant la pluralité de formes que peuvent prendre la solitude. La solitude ne se doit pas d'être uniquement vécue en souffrance, mais peut aussi être une source d'épanouissement personnel, de créativité et de liberté. Ainsi, comme nous encourageait déjà Virginia Woolf il y a de nombreuses années, emparons-nous de cette solitude et cultivons-la. Créons-nous chacun une chambre à soi. Rania, je fais ici appel à l'étudiante que vous êtes. Est-ce que cette idée fait écho en vous ?
En fait, c'est hyper intéressant parce que on note deux types de solitude. Il va y avoir la solitude du coup qui est subie, comme je l'entends, où on se sent vide, mise à l'écart. Et puis il y a la solitude qu'on choisit en fait. C'est là où du coup on va se retrouver, en fait elle est presque apaisante dans le sens où c'est là où on se recentre, on prend du recul et on apprend à se connaître soi. Et du coup, en tant qu'étudiant, je pense que c'est très important d'avoir ces petits moments-là, surtout quand on a la tête pleine. Et du coup, moi, il y a un exemple que je vois souvent, c'est des amis qui nous disent « Bon, moi, avant les partiels, il y a un mois où je vois plus personne, où je m'isole totalement. » Et je sais pas si c'est la meilleure chose à faire parce qu'en fait, du coup, on perd, quand on sort pas en fait, pour réviser, on perd ce lien social. Et du coup, ça peut être lourd pour certaines personnes. Mais du coup, je trouve qu'il faut faire attention parce que la frontière entre les deux, entre la solitude qui va être bénéfique et l'isolement, elles peuvent devenir très vite floues, surtout dans les périodes de stress et d'examen du coup. Donc je pense que c'est important de faire la différence entre les deux. Il y en a une qui est active, c'est-à-dire je choisis le retrait pour faire telle ou telle chose, pour me recentrer, pour mieux me connaître. Et il y a l'autre qui est passive, en fait, où on subit le manque de lien. Et du coup, faut savoir le différencier pour savoir quand ça ne va pas. Ça, c'est hyper important. Mais oui, la solitude, elle peut être... pas forcément négative, c'est aussi, on peut parler de voie d'authenticité en fait, quand on est tout seul, c'est là où on peut apprendre à se connaître et c'est là où on peut se connecter à soi. Après, il faut faire attention, il y a aussi les notions d'introversion et d'extraversion. Il y a des gens qui vont se sentir très bien tout seul et qui vont recharger leur batterie tout seul. Il y a des gens pour qui ce n'est pas du tout possible et ça va être plus vers les gens. Donc, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ça, mais c'est vrai que ouais, c'est carrément un truc qui est cool. Et voilà, c'est cool d'être tout seul des fois.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans vos moments de solitude ?
Moi, je sais que du coup, je fais partie de la team « Je n'aime pas être tout seul ». Donc, c'est vrai que quand je suis toute seule, c'est vraiment que j'en ai extrêmement besoin et que le cerveau le réclame. Donc, je le sens physiquement. Et c'est vrai que juste de bouquiner ou d'écouter de la musique, moi, j'adore le jazz et juste faire un peu de méditation, c'est des trucs où on a des moments super calmes. Et là, pour le coup, on se dit « Ok, je suis bien d'être toute seule, il y a moins ces pensées qui vont vite, etc. » Mais c'est vrai que moi, je fais partie plus de l'autre équipe, à voir des gens quand ça va pas trop et quand j'ai besoin de savoir qui je suis.
Vous vous rechargez avec les autres ?
C'est ça.
Comme nous l'avons dit précédemment pour Aristote, l'être humain est un animal politique. Cette dénomination inclut deux choses. On va se concentrer sur la première. L'humain est fait pour vivre en communauté, dans un groupe qui lui permet d'avoir tout ce dont il a besoin. Anthony Bonnemaison, est-ce que cette idée d'un humain fait pour vivre dans la cité s'oppose à la solitude bénéfique que mettent en avant ces féministes contemporaines ?
Alors, en un sens, on pourrait dire oui, puisque comme on l'a dit chez Aristote, on ne peut pas vivre une vie pleine et entière en dehors de la cité, c'est-à-dire à la personne qui serait hors cité, c'est-à-dire hors de ce lien social et politique spécifique qui est la participation citoyenne, c'est soit une bête, soit un dieu, c'est-à-dire soit quelqu'un qui est pour Aristote, infra-humain soit supra-humain. Mais cela étant dit, ça vaut dans le cas idéal où une cité remplit son rôle aussi, parce qu'une bonne cité, ou un bon état, on dirait aujourd'hui, se doit en fait de rendre possible et de favoriser ce lien social entre les citoyens. Donc évidemment, dès qu'on est dans des régimes politiques plus défectueux, les choses sont différentes. Et notamment, après Aristote, on a ce qu'on appelle les philosophes hellénistiques, notamment l'épicurisme et le stoïcisme, ces grands courants très connus, qui, eux, vont plutôt prôner une vie heureuse, parfois en retrait ou voire en dehors de la cité, donc en dehors de la vie politique. Chez les épicuriens, c'est même une condition pour être heureux, il faut se tenir à l'écart en fait, des affaires humaines. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement seul, mais on vivra plutôt dans une communauté d'amis, une communauté restreinte. Et chez les stoïciens, ça peut être encore plus radical, puisqu'il y a cette idée que le sage peut être parfaitement heureux seul, coupé des hommes, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin des autres êtres humains pour être heureux, même s'il peut par ailleurs vivre dans la cité. Donc on a vraiment des modèles très différents. On sera assez loin de l'idée d'une solitude créatrice qui est plus moderne, qui est une idée plus moderne, plutôt un héritage du romantisme. Voilà, dans la Grèce, on trouve plein de modèles possibles de vie bonne, y compris dans une forme de solitude qui peut apparaître comme une condition aussi du bonheur ou qui la rend possible en tout cas.
Mais cette idée de la philia, on la retrouvera un peu plus tard. Si vous souhaitez aller plus loin et creuser cette idée, je vous renvoie évidemment aux ouvrages de Lorraine Bastide et Virginia Woolf, mais aussi au livre « À propos d'amour » dans lequel Bell Hooks écrit cette phrase « Lorsque l'on apprécie la solitude, on apprécie la compagnie des autres sans les utiliser pour échapper à soi-même », qui, je trouve, permet de questionner les liens sociaux que nous entretenons notamment à la fac et qui répondit sur cette idée, Rania, que vous avez évoquée tout à l'heure, de se sentir bien aussi avec les autres. Et vous reviendrez vers nous lorsque vous aurez réussi à définir ce qu'est le bon lien social. Le second point important que soulève Aristote, c'est le langage. Contrairement aux cris des animaux, le langage est ce qui caractérise l'humain. Et c'est sur ce langage que nous nous concentrerons après une nouvelle interlude musicale.
Quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliable, inconsolable, seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais, la solitude, le temps? Regarde l'air, nos ennemis, dis-moi que oui, dis-moi que oui. Quand nos secrets n'auront plus cours et quand les jours seras-tu là pour
Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous sommes sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour animer la première émission de la saison 2025-2026 des étudiants relais santé et étudiants relais égalité. Dans cet épisode, nous nous concentrons sur l'impact du lien social sur la santé mentale. Nous venons de discuter de l'isolement et de la solitude qui peut être bénéfique. Nous pouvons maintenant parler d'un second point fondamental dans l'expression d'animal politique chez Aristote, qui est le langage. En tant que le langage humain permet de dire, de penser, de partager, c'est lui qui nous rend capable d'exprimer le juste et l'injuste, le bien et le mal, la joie ou la souffrance. Et justement, on aimerait maintenant s'arrêter sur cette dimension du langage et se demander pourquoi est-ce parfois si difficile de parler de ce qui ne va pas. Et en même temps, comment la parole peut-elle devenir un outil de soin, d'émancipation, de lien ? Alice, si Alpaline existe aujourd'hui, c'est bien qu'il y a un besoin d'écoute chez les étudiants et étudiantes. À votre avis, d'où vient ce besoin ? Est-ce qu'il est nouveau ? Est-ce qu'il s'est accentué ces dernières années ?
Oui, c'est qu'il y a bien un besoin, ça c'est sûr. Je dirais que ça a toujours été quelque chose qui est nécessaire, que ce soit au niveau des étudiants ou tout type d'âge, on va dire. Parce que c'est quelque chose qu'on a tous besoin de parler. Il y a des personnes qui vont avoir plus de mal à raconter leurs problèmes, leurs difficultés. Mais malgré tout, on a tous besoin d'être écoutés. Et dans la vie de tous les jours, on n'est pas forcément écouté pleinement, puisqu'on est plus dans des discussions ou dans la communication. Et on a tous des fois besoin d'être pleinement écoutés, entièrement, acceptés, ouvertement. Et c'est vrai que c'est ce que nous, on propose, cette écoute unidirectionnelle qu'on a rarement et qui permet de vraiment pouvoir vider son sac et pouvoir sortir tout ce qu'on a besoin. Et c'est quelque chose qui est nécessaire et qui, des fois, est ce qu'on n'a pas forcément souvent, mais qui est pourtant totalement nécessaire pour, dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est là depuis de nombreuses années, et je pense au niveau des étudiants chaque année et depuis très longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, notre projet, il est jeune, il a que 2 ans et demi, et on commence au fur et à mesure des années à augmenter le nombre d'appels, puisqu'on est de plus en plus connus. Et on pourrait se dire, les gens vont de moins en moins bien, mais pas du tout. C'est parce que les gens commencent à savoir que quand on va pas bien, on peut appeler Alpaline. Mais il y a aussi plein d'autres dispositifs qui montrent que depuis de nombreuses années, les étudiants sont dans le besoin et ont besoin de cette écoute que des fois on peut pas retrouver dans notre environnement extérieur et qui est pourtant totalement nécessaire.
Et du coup, ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça vient montrer qu'on a plutôt l'habitude de parler et pas tant l'habitude de s'écouter à l'heure actuelle. Est-ce que les étudiants et étudiantes qui répondent au téléphone et qui proposent cette écoute sont formés pour écouter ? Est-ce que vous avez des directives de comment faire pour écouter ? Comment faire pour ne pas répondre ? Est-ce que vous pouvez répondre à certains moments ?
Bah, en fait, c'est exactement ça. En fait, on est formés. Donc, les bénévoles sont formés à 45 heures de formation, dont une grosse formation sur l'écoute active, où on apprend à cette écoute en fait unidirectionnelle et en fait aussi cette ouverture pleine d'acceptation entière de la parole de l'autre et qui permet en fait de recueillir toutes les informations que nous apporte l'autre et de relancer sur ce qui a déjà été dit sans passer par nous, puisqu'on ne va pas parler de nous, mais uniquement de la personne. Donc on va travailler ensemble sur ce sujet-là et sur les besoins de la personne, ce qui permet quelque chose qu'on fait rarement dans la vie de tous les jours. Souvent, on est dans une discussion, on donne notre avis, on discute, on papote. Et là, c'est vraiment sur le sujet de la personne qui appelle, c'est lui et lui-même. Et donc, c'est quelque chose, oui, on est formé, on nous aide et on pratique beaucoup avant d'avoir des appels.
Et des fois, ces appels, ils peuvent être lourds d'une charge émotionnelle. Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière pour les personnes qui sont à l'écoute, qui peuvent absorber ces émotions qui sont transmises par la parole ?
Bien sûr. Alors déjà, dans notre partie de formation, on a une formation sur le bien-être écoutant, donc bien-être bénévole, qu'on réalise, nous, les anciens bénévoles. On exprime un peu la difficulté des fois qu'on peut retrouver et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir mettre une barrière entre ce que j'écoute et ma vie à moi. Il y a aussi toute la partie anonyme qui permet aussi de se dire je connais pas cette personne, elle n'a pas de lien avec moi, donc je garde la distance. Malgré tout, le fait d'être au téléphone, ça permet aussi de garder cette distance assez bien. Nous avons aussi, après chaque appel, un débrief, parce que pendant la permanence, on a un superviseur, donc il y a deux bénévoles écoutant toutes les permanences et un superviseur qui est présent. Et donc à la fin d'un appel, le bénévole a un temps avec le superviseur afin de débriefer, afin de relâcher la pression, de se parler de ce qui se passe, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'il a besoin de lâcher des choses. Et cette année, on est en train de remettre en place une supervision psychologique. Donc ce serait un psychologue formé à la supervision qui permettrait de faire du travail en groupe et de décharger encore plus. Parce que pour nous, le bien-être bénévole est notamment un point important de notre projet.
C'est intéressant ce que tu nous dis, parce qu'on peut observer un cercle vertueux de gens qui se font du bien, enfin qui font du bien aux autres en écoutant et qui ensuite se font du bien eux-mêmes en étant écoutés. Donc c'est très pertinent et ça donne envie. Et pourquoi ? Et pourtant, du coup, tu nous dis qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui vous appellent, mais ça veut dire qu'il y a quand même des étudiants forcément qui ne vous appellent pas, parce qu'ils n'osent pas forcément parler de ce qu'ils ou elles vivent. Rania, dans les échanges que tu as eus en tant qu'étudiante en psychologie et étudiante relais santé, est-ce que cette difficulté d'aller vers l'autre et de discuter de ce qui ne va pas, c'est quelque chose que tu as pu observer ? Est-ce qu'il y a un blocage à exprimer ce qu'on ressent ?
Ouais, carrément, il y a beaucoup d'étudiants en fait qui ont du mal à parler de ce qu'ils vivent, surtout de leur mal-être, parce que ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de déranger et surtout ils ont peur de paraître faibles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, on observe qu'il y a une norme sociale qui s'appelle la norme de positivité. Et en fait, c'est le fait que la société, elle valorise carrément le fait d'être bien, d'être performant. Et d'être, de réussir, en fait, c'est assez lié au capitalisme dans tous les cas. Mais du coup, le fait de dire, en fait, je vais pas bien, en fait, ça serait comme être carrément à contre-courant. Et alors qu'en fait, c'est normal d'aller pas bien, d'être mal, enfin, c'est humain. Et je pense qu'il y a personne sur cette terre qui a jamais éprouvé du mal-être un jour dans sa vie, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un exemple, c'est le « Salut, ça va, oui, et toi ?» qui est hyper connu, on l'utilise tous. Et en fait, la plupart du temps, la personne qui envoie ce « ça va » et la personne qui le reçoit, les deux sont complètement détachés, en fait, de ça. Parce que, est-ce que la personne qui pose la question se préoccupe vraiment de l'état de la personne qui la reçoit ? Est-ce que la personne qui la reçoit dit vraiment ce qu'elle pense, en fait? C'est quasiment automatique, en fait, quand on y pense, le « oui et toi », il est très instinctif. Et je pense que les rares situations où on obtient un « non et toi », ça nous choque et je pense qu'il y aurait un petit blocage, ouais. Donc voilà. Mais le blocage, il vient aussi du fait qu'en fait, parler de ses émotions, ça demande des compétences aussi qui ne sont pas forcément développées chez tous, en fait. Il y a le fait de reconnaître ce qu'on vit, de l'identifier, de le nommer, et ça prend du temps. Et du coup, les conséquences, ça peut être qu'en fait, on garde tout. Et quand on garde tout, ça pèse encore plus et ça explose au bout d'un moment. Après, il y a aussi des questions culturelles. C'est vrai que dans certaines cultures, il y a des personnes qui grandissent dans un foyer où en fait, ça ne va pas du tout être légitimisé de parler de son mal-être ou des émotions négatives. Et du coup, ça va être compliqué parce qu'en fait, eux, ils vont grandir avec ce truc de parler de son mal-être, c'est mauvais, c'est pas bien et tout. Il faut juste valoriser ce qui est positif. Donc ça aussi, ça peut être entendu comme une difficulté à parler de ce qui ne va pas.
Et du coup, toi, si tu fais cet emploi étudiant, étudiante relais santé, c'est qu'il y a quand même une résonance autour de ce qu'on discute aujourd'hui dans tes convictions personnelles. Est-ce que cette résonance-là, elle est aussi visible dans ton groupe d'amis ? Est-ce que vous mettez en place des choses particulières pour savoir discuter ?
Ouais, carrément. Après, je pense que ça dépend un peu de tous, mais nous, on a beaucoup ce truc de, honnêtement, beaucoup partager ce qu'on vit, etc. Je pense à de ça dépend du degré d'amitié, ça dépend de, ouais, de la relation qu'on entretient avec les autres ou même juste des personnalités. Donc je pense qu'on aime bien parler un peu de tout. Du coup, ça vient très naturellement. Mais j'entends complètement que chez d'autres, c'est plus compliqué. Je sais qu'il y a une différence qui est assez genrée. En fait, il y a des, les étudiants masculins se considèrent un peu plus... Enfin, ils n'ont pas forcément envie de s'ouvrir. Peut-être que ce n'est pas aussi très ouvert de l'autre côté aussi d'en parler. Et donc c'est vrai qu'eux, je pense qu'ils rencontrent un peu plus de difficultés avec ça, mais après c'est très stéréotypé, je pense que ça dépend de chacun, ouais.
Et du coup, Alice, dans les appels que vous recevez à Alpaline, donc est-ce que vous sentez qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à trouver les mots, à dire ce qu'elles traversent, et quels sont les outils que vous pouvez mettre en place pour accompagner au fait de parler?
Ben oui, ça, en fait, on va avoir vraiment deux types, on va dire, de personnes. Celle qui va appeler et qui va déballer tout le sujet du début jusqu'à la fin, afin de nous expliquer vraiment toute la situation. Donc pendant une heure, pendant 30 minutes d'affilée, sans s'arrêter, où il va nous exposer, ou voilà. Et puis on va avoir des personnes qui appellent et qui s'arrêtent, qui disent bonjour et qui savent plus quoi dire. Parce que ça va pas, mais elles appellent. Et en fait, sauf que quand on répond, elles se disent « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je vais dire ?» Et en fait, nous, on est là pour essayer de... On répond à ces deux situations parce qu'on a été formés à ça. Et que ça soit quelqu'un qui déballe tout de suite tout les informations ou quelqu'un qui a besoin qu'on l'accompagne pour commencer à aborder les sujets, on va le faire pleinement. Donc, du côté des personnes qui ont un peu plus de mal à discuter, on va venir en fait poser des questions, essayer de creuser sur pourquoi on a appelé, quelles sont les raisons. On va essayer de relancer sur les sujets, voir qu'est-ce qui a pu emmener à ça. Des fois, ça part aussi du raconte-moi ta journée, et ça peut être quelque chose qui permet de lancer la conversation et de ensuite passer par autre chose et voir d'autres petits soucis que la personne n'a pas forcément vu ou qu'elle n'arrive pas à forcément identifier. C'est quelque chose que des fois beaucoup d'étudiants ont, et en globalité, l'être humain des fois a du mal à identifier ses émotions. Donc nous, on va venir par des questions ou par vraiment de l'écoute et nos questionnements, venir apporter de l'aide à cette parole et orienter les personnes qui en ont besoin.
Et du coup, tu parles de difficulté à identifier ses émotions. Est-ce que tu penses que c'est le facteur principal qui fait qu'il y a un frein dans la communication ? Est-ce que tu es d'accord avec ce que Rania disait, par exemple, avec le contexte social, que ce soit genré, familial ou autre ? Est-ce qu'il y a également des sentiments négatifs qui peuvent bloquer cette parole ? La peur d'être incomprise, le sentiment de faiblesse et du coup de honte par rapport à ça ?
Bah, je suis tout à fait d'accord avec Rania sur ces sujets-là. Malgré tout, on a ce qu'on appelle la désirabilité sociale. C'est ce besoin d'être toujours désirable au vu de l'autre. Donc en fait, on a des difficultés à se montrer faible, notamment au niveau du genre masculin, entre gros guillemets. Mais ce qu'on retrouve aussi chez les femmes ou dans le... chez l'humain en globalité, ce qui va amener à avoir du mal à s'exprimer et à se dire ok, ça va pas et je vais devoir en parler, c'est pour ça que beaucoup de gens se renferment sur eux. Et nous, ce qu'on apporte de ce côté là c'est ce côté un peu anonyme en fait qu'on a, c'est que nous on sait pas qui tu es. Donc c'est vrai que des fois on peut se dire je vais pas en parler à mes amis parce que en fait ils vont se rendre compte que moi ça va pas alors que eux ça va super, alors que sûrement eux aussi ça va pas mais qu'ils font comme si ça allait bien. Mais en fait passer par ce côté un peu anonyme et de quelqu'un qui est aussi étudiant sur la même fac que toi, au même endroit et qui a les mêmes difficultés mais qui a appris différemment et qui a eu des formations etc, peut t'apporter un point de vue et un soutien. Tout en restant assez loin de toi pour que t'aies pas ce sentiment un peu de honte ou de culpabilité, parce qu'il faut pas se sentir coupable de se sentir mal, parce que c'est quelque chose de tout à fait normal. Et donc nous c'est ce qu'on propose et ce qu'on dit à ces personnes-là, parce que c'est important de se rendre compte que parler de nos difficultés c'est quelque chose de normal et qu'il faut faire et qui devrait devenir plus naturel dans notre vie de tous les jours. Et je suis d'accord par rapport au oui, est-ce que ça va, oui, et toi. C'est vraiment quelque chose qu'on dit tous les jours et pourtant rarement on s'intéresse à la réponse réelle. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place pour encore plus pouvoir discuter entre nous de nos difficultés et se rendre compte qu'on en a tous.
Et Rania, justement, on parle de honte, de culpabilité qu'il faudrait faire tomber. Qu'est-ce que la psychologie, elle nous apprend là-dessus ? En quoi parler, même un peu, ça pourrait déjà aider à aller mieux ?
Alors, c'est vrai que la honte, elle revient souvent. En fait, c'est une émotion qui apparaît quand on sent qu'on ne répond plus aux attentes des autres. Et du coup, ça, c'est hyper compliqué dans la gestion de l'image de soi. Dire qu'on va mal, en fait, c'est risquer d'abîmer, comme disait Alice, cette image, cette désirabilité, pardon, envers les autres. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est une émotion qui est tournée vers soi, mais sous le regard des autres. En fait, c'est on se juge soi-même à travers ce qu'on imagine que les autres pensent de nous. Donc, c'est hyper subjectif. Hein. C'est plein de suspicions un peu qui sont pas très fondées parfois aussi. Donc voilà. Mais parler, oui, ça aide et au-delà de ça, c'est thérapeutique. De toute façon, moi, je vais bien défendre cette idée. Enfin, la psychologie, c'est quand même fait pour ça. Il y a des thérapeutes faits pour ça. Et en fait, dans cette idée-là, mettre des mots dessus, sur son vécu, sur ce qui se passe, en fait, c'est transformer cette pensée en pensée consciente. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, ça permet la mentalisation. C'est-à-dire, je prends du recul sur mes émotions et je comprends d'où elles viennent. Et ça, c'est une première étape super importante parce que oui, mettre des mots sur son mal-être, bah, ça le rend réel et c'est ça qui est le plus dur, en fait. C'est que quand c'est encore dans la tête, c'est assez brouillon, on les laisse un peu passer, etc. Mais quand on met des mots dessus, bah, on implique nous-mêmes et on implique les autres aussi si on en parle à quelqu'un. Donc voilà, c'est très important, c'est le premier pas pour aller mieux. Et pour ça, on peut s'aider, bah, comme le disait Alice, des amis ou de la famille. Après, si on veut mettre un peu de distance avec ça, évidemment, vous pouvez aller consulter un psychologue, un thérapeute. Je tiens à rappeler qu'il y a le dispositif Santé Psy qui offre 12 séances par année universitaire auprès du thérapeute que vous voulez, du psy que vous voulez. Vous pouvez changer et c'est super important parce que déjà, autre que l'aspect financier qui peut peser des fois sur les étudiants, bah, y a ce truc de si on a envie de changer, si on ne se sent pas bien avec son thérapeute, en fait, et bah, on peut changer assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas.
Et pour revenir sur la honte, Anthony Bonnemaison, en philosophie antique, la honte est souvent liée à un sens moral. On a honte d'avoir mal agi. Mais aujourd'hui, on a plutôt honte d'aller mal. Comment les philosophes de l'Antiquité aborderaient-ils cette émotion ? Et en quoi le langage peut-il nous aider à sortir de cette honte ?
Alors c'est vrai que comme on l'a dit précédemment, pour les philosophes de l'Antiquité aussi, au moins pour certains d'entre eux, la honte a vraiment une dimension sociale. Aristote par exemple reprend une expression courante à son époque, la honte est dans les yeux, au sens où on a honte sous le regard d'autrui, par rapport à certaines normes sociales ou morales qui sont celles de nos pères. Et face à ce constat, il y a des réactions très diverses. Il y a les philosophes qui n'ont honte de rien. On peut penser par exemple, le cas le plus extrême, ce serait Diogène, le cynique, hein, donc qui s'inspire en fait du mode de vie des autres animaux comme un modèle d'attitude naturelle et donc bonne, et qui n'a honte d'absolument rien et de briser toutes les conventions sociales, toutes les attentes. On peut penser à Socrate aussi, qui lui aussi n'a pas du tout honte face à ses interlocuteurs de dire des choses qui leur semblent aberrantes, fausses, choquantes. Mais pour les philosophes de l'Antiquité, c'est vrai que la honte sera un peu à double face, c'est-à-dire qu'on peut considérer, comme le font aussi d'autres philosophes contemporains, comme Martha Nussbaum, qui s'est inspiré de l'Antiquité, que du coup la honte c'est une émotion purement sociale, qu'elle implique une forme de haine de soi, ou que si on y répond, on tombe dans une sorte de conformisme social. C'est une possibilité. Et d'autres philosophes, eux, considéreront que l'important c'est plutôt de savoir de quoi est-ce qu'on a honte. C'est-à-dire, il y a peut-être des choses pour lesquelles ça pourrait être une émotion bénéfique, parce qu'à ce moment-là, elle pourrait nous conduire aussi à essayer de s'améliorer ou reconnaître des erreurs, etc. Et donc, ça serait plutôt cette perspective-là, puisqu'il peut être bon d'avoir honte parfois. Hein, ça peut être le moteur, comme je sais pas, dans des dialogues de Platon, par exemple, le personnage a honte de lui-même parce qu'il prend compte, il se rend compte de son ignorance alors qu'il croyait savoir. Donc, ça serait vraiment plutôt ça la question pour d'autres philosophes. De quoi serait-il légitime ou pas d'avoir honte ? Et évidemment, prendre conscience des difficultés qu'on rencontre ou des faiblesses qu'on peut avoir ferait pas forcément partie des choses pour lesquelles il faudrait avoir honte. Mais il y en aurait d'autres pour lesquelles ça pourrait être plus bénéfique.
Merci. Parler, du coup, c'est déjà sortir de cet isolement, sortir de la honte, mais c'est pas un chemin qu'on fait seul. Alors, dans la suite de cette émission, on va voir comment l'entraide, les liens et les solidarités peuvent aussi être des leviers de soins.
Si tu m'aimes demain, on sera deux stars à 70-80 qui se cachent leur gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision, ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux, dommage, j'irai pas mieux. Devoir se dire adieu, contourner pas.
Vous êtes bien sur Radio Campus 90.8 et vous écoutez une émission des ERE et ERS sur le lien entre santé mentale et lien social. Être pourvu du langage, c'est bien et très utile pour s'exprimer, mais aussi pour écouter les autres. C'est cette écoute de la parole des autres, et même de la sienne, sur laquelle nous allons réfléchir maintenant, et aussi du silence, en fait, qu'il faut parfois écouter. Alice, tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'écoute unidirectionnelle. Lorsque vous êtes au téléphone avec les personnes qui vous appellent, quelle attitude adoptez-vous pour témoigner de l'écoute dont vous faites preuve ? Par exemple, de mon côté, ici, je suis face à vous, je peux hocher la tête, je peux vous sourire, mais au téléphone, les étudiants ne vous voient pas. Comment montrez-vous votre présence ?
Eh bien, ça, c'est ce qu'on voit aussi dans notre formation sur l'écoute. C'est quelque chose qui... C'est vrai que quand on est face à face avec une personne, on va montrer dans notre position, dans notre hochement de tête, dans le regard. C'est une capacité qu'on a de montrer à la personne qu'on est en train d'écouter ce qu'elle dit. Et si vous faites l'expérience de quelqu'un qui ne vous regarde pas ou qui fait autre chose pendant que vous lui parlez, c'est très, très désagréable. Et c'est quelque chose que nous, on met en place pendant les formations pour se rendre compte que quand on ne se sent pas écouté, on n'a pas très envie de parler. Et c'est vrai qu'au téléphone, on a cette chose qu'on ne peut pas avoir, notamment le regard. Et en fait, on va faire comme un hochement de tête, mais avec la parole. C'est-à-dire, quand la personne va nous parler, on va dire oui, d'accord, je comprends. En fait, c'est comme un hochement de tête, mais avec des mots. Et aussi par les relances qu'on va mettre en place quand quelqu'un va nous raconter quelque chose. Le fait d'avoir relancé sur quelque chose qu'elle a abordé il y a 5 minutes ou il y a 10 minutes, ça montre qu'on a écouté pleinement ce qu'elle nous a raconté. Et c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour afin de montrer à la personne qu'on est là, qu'on l'écoute et qu'on est là que pour elle. Voilà.
Est-ce que des étudiants parfois vous appellent et ne souhaitent pas parler ?
Je pense que c'est jamais arrivé. Souvent, on nous appelle et même si c'est, ça peut arriver qu'on nous dise « je ne sais pas pourquoi j'ai appelé », mais on va aller creuser et on va lui dire bah, « on va essayer de passer par autre chose ou par un autre chemin afin d'aborder le fond du problème qui, des fois, on n'est même pas conscient, on sait que ça ne va pas, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient. Donc, on va nous-mêmes essayer d'aller chercher la chose, mais on n'a jamais eu quelqu'un qui... va nous appeler et juste rien dire. Sinon, ça arrive que quelqu'un appelle et puis raccroche. Je pense que ça peut être la peur de se dire « oulala, qu'est-ce que je vais dire ?» Mais en fait, quand on est fermé, donc on est ouvert pendant les permanences le week-end, le samedi, dimanche, lundi et mardi soir de 20h à 23h. Mais en dehors des permanences, on a une messagerie vocale. Et en fait, on laisse la possibilité aux gens de laisser un message vocal s'ils veulent se décharger. Ce message vocal, il ne sera pas écouté ou ils ne seront pas rappelés les personnes. Mais ça permet des fois d'offrir un espace où je peux juste en fait vider dans une boîte vide qui permettra de... Bah, allez, je le lance, personne ne l'entendra, personne n'écoutera et ce n'est pas grave.
D'accord. C'est comme quand on nous conseille d'écrire nos pensées négatives puis de les brûler par exemple.
Exactement, c'est un peu ça. C'est comme si écrire dans un journal et... Mais là, c'est juste vidé au téléphone avec quelqu'un qui ne nous écoute pas ou avec personne. Et juste, hop, je vide et je mets à la poubelle.
Rania, tout à l'heure, vous avez appuyé sur cette parole qu'on a de « Salut, ça va ? Oui, et toi ?» Et donc, qui permet de se rendre compte que la communauté qu'on forme aujourd'hui, la société qu'on forme aujourd'hui, n'est pas vraiment dans le bien-être et dans l'écoute des autres. Si on parle de prendre soin, nous ne pouvons pas passer à côté de la pensée de Carole Gilligan, qui est la penseuse du care. Le care, c'est reprendre en compte la manière dont les individus se préoccupent et s'occupent des autres et d'eux-mêmes. Carole Gilligan, elle articule également l'éthique et la politique au-delà des questions de genre, en ébranlant la dévalorisation traditionnelle des activités sociales tournées vers le soin. Car effectivement, encore beaucoup des actes de care sont réalisés par les filles et les femmes sans que personne ne le soulève. Et parallèlement à cela, le manque de care de la part des hommes dans la société et dans les liens sociaux, dans les foyers même, subsiste. Nous parlons de santé aujourd'hui. Alors je me permets de rappeler qu'encore 86,6% des infirmières sont des femmes et plus de 85% des psychologues sont des femmes. Et ces professions sont liées respectivement au prendre soin et à la mise en lumière de l'importance de la parole. Encore une fois, ces chiffres ne sont pas des tremplins de discussion, mais peuvent ouvrir et, je pense, questionner. Rania, est-ce que vous sauriez remarquer des biais qui vous auraient poussé à choisir les études de psychologie ?
Alors, je pense qu'il n'y a jamais un choix qui est fait par hasard, en vrai. Mais ouais, si je dois parler d'un biais, en vrai, c'est le fait que, bah, en fait, on grandit dans un contexte social qui est genré. Et en fait, bah, on grandit avec telle ou telle idée que ce métier-là serait fait pour toi, celui-là un peu moins. Et je sais que pour les filles, il y a beaucoup cette notion d'empathie, de prendre soin de l'autre, carrément quelque chose un peu de maternelle. J'aime pas trop l'appeler comme ça, mais ouais, on grandit avec le truc de les femmes, c'est fait pour prendre soin des autres. Et du coup, je trouve ça dommage parce que déjà, ça écarte l'idée que la psychologie et tous les métiers du soin, c'est des compétences qui sont acquises. On a des études pour ça et c'est pas des choses qui sont innées. Alors bien sûr, du coup, il y a de l'appétence pour certaines facettes du métier, comme bah, vouloir écouter les gens et entendre parler de leurs problèmes ou de choses qui vont pas forcément. C'est sûr que si on a vraiment... zéro intérêt pour ça, ça va être compliqué par la suite. Mais je tiens à soulever le fait que il y a la personnalité qui joue également dans cette idée-là. C'est une question de personnalité, c'est une question de société, mais avant tout, ouais, faut pas oublier que c'est quelque chose qui s'apprend. Donc fille, garçon, peu importe, franchement, faut juste, si on se sent prêt, faire les études et, pour ça. Et voilà. Mais ouais, dépasser les clichés, je pense, là-dessus, c'est bien.
Nous conclurons cet épisode sur la philia, qui est une forme d'amitié qui met en avant le lien fort entre les individus. Anthony Bonnemaison, pouvez-vous nous définir ce terme ?
Alors la philia, chez les Grecs, c'est vraiment un aspect extrêmement important, aussi bien dans leur imaginaire politique que dans la façon dont ça va être développé par les philosophes, puisqu'en fait, pour à peu près tous les philosophes qui se sont interrogés sur ce que c'était une vie bonne, une vie heureuse, malgré des modèles très différents, on va toujours retrouver cette idée que la vie bonne ne peut pas passer par une vie sans amitié. Le philosophe le plus connu pour ça, c'est peut-être Aristote, qui va distinguer plusieurs formes d'amitié. Il y a les amitiés fondées sur le plaisir, c'est la plupart de nos amitiés. En fait, on est amis parce qu'on prend plaisir à être les uns et les unes avec les autres. Il y a les amitiés fondées plutôt sur l'intérêt, c'est-à-dire autrui nous apporte quelque chose ou nous aide. Et puis il y a des amitiés aussi, ça c'est plus proprement aristotélicien, fondées sur la vertu, sur l'excellence. Et ce qui est important chez Aristote, c'est que même si pour lui l'amitié au sens plein, ça serait l'amitié fondée sur une forme de vertu, d'excellence, toutes les formes d'amitié ont leur place dans la vie bonne, et elles impliquent vraiment une vie en communauté. C'est-à-dire Aristote dira l'amitié est une communauté au sens où ça implique une vie en commun. Avoir des amis au sens plein. Et on retrouvera quelque chose d'assez similaire, par exemple, chez les épicuriens. J'avais dit que la vie bonne, elle se faisait en dehors de la cité ou en marge de la cité, mais du coup, elle se réalise à travers une communauté, mais restreinte, une communauté qui vit selon un même idéal de recherche, de satisfaction des plaisirs simples. Et d'absence de troubles, d'entraide aussi, en cas de troubles, en cas de coup dur. Et peut-être pour finir sur ce point, il faut aussi voir que chez les Grecs, ce qui est intéressant, c'est que l'amitié, c'est pas seulement une relation interpersonnelle, mais aussi une relation qui est pensée à l'échelle politique. Il y a de la philia politique. Chez Platon, par exemple, c'est un de ses grands objectifs, c'est de faire en sorte de penser une cité qui soit dans laquelle les différents membres, même s'ils n'ont pas tous les mêmes statuts, le même rôle politique, sont unis par des liens d'amitié, une communauté aussi émotionnelle. Il parle d'une communauté d'opinion et d'affect. Donc il y a vraiment cette idée quand même qu'une bonne politique, c'est une politique qui crée du lien et des liens d'amitié entre ses membres, c'est-à-dire que les autres membres de la communauté comptent pour moi, en fait, comme je compte pour eux. Et ça, c'est aussi un point assez important et où je trouve que les Grecs sont toujours intéressants pour penser ces questions.
Effectivement, cette philia, c'est une forme de lien social et qui insinue un lien de care entre les individus. Et je pense que l'on peut apprendre de cette conception des relations qui sont un pilier de la vie d'un humain.
Lève-toi, foule, ne regarde pas le monde qui s'écroule. Sans rien faire en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience, ne laisse pas s'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance, que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent. Lève-toi, foule, montre que dans ton sang, ce qui coule sont des fleuves de temps, de batailles, de libertés arrachées pour que brillent nos visages ensemble, nos pupilles, nos rêves, nos idées, nos idylles. Les larmes sur nos joues sont du sel. Marchons sous le même soleil, la même nuit, la même lune. Lève-toi, fils, si ici nous
Oh,
Nous arrivons à la fin de l'émission. Alice, Rania, Anthony Bonnemaison, merci beaucoup d'y avoir participé.
Merci à vous.
Merci.
C'est que le début de cette saison de podcast 2025-2026 des étudiants Relais Égalité et Relais Santé. Vous pouvez écouter les anciens podcasts qui ont déjà eu lieu sur Radio Campus Grenoble. Merci à tous de nous avoir écoutés au 90.8 et nous vous retrouvons très bientôt pour deux épisodes qui continuent dans la continuité des semaines de l'information sur la santé mentale, les SIMS, avec d'autres ERE, ERS qui vous feront... découvrir leur thématique.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !